Bonjour et bienvenue, 10h TU, midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, de nombreuses victimes signalées à Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Une frappe russe a fait au moins 21 morts et plus de 80 blessés à suivre dès le début du journal. Pas de victimes signalées, mais d'importants dégâts dans la bande de Gaza où un grand hôpital a été frappé dans la nuit par l'armée israélienne. Nouvel incident diplomatique entre la France et l'Algérie. Alger proteste vivement contre la détention en France d'un agent consulaire. Dans ce journal aussi, le second tour de la présidentielle en Équateur. Pays gangrené par la corruption et la violence des gangs. Victoire kényane chez les hommes à l'arrivée du marathon de Paris ce matin. Bernard Bivot l'emporte, alors que chez les coureuses, la plus rapide a été l'éthiopienne Bedatou Hirpa. C'est l'une des attaques les plus meurtrières de ces derniers mois en Ukraine. Donc une frappe de missile russe a fait des dizaines de victimes à Soumy dans le nord-est du pays. Julien Chavanne, hein, c'est à 30 km de la Russie.
Des voitures calcinées, des bâtiments éventrés et des cadavres sur le trottoir. L'horreur a frappé Soumy ce dimanche matin vers 10h heure locale, comme on peut le voir et l'entendre sur cette vidéo partagée par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien dénonce un acte commis par une racaille immonde. D'après un premier bilan des autorités, les missiles balistiques russes ont fait au moins 21 morts, 83 blessés, dont 7 enfants. Le bombardement n'a visé a priori aucune cible militaire, seulement des civils qui se promenaient, allaient à l'église ou buvaient un café dans le centre-ville. La région de Soumy est la cible d'une vaste offensive de l'armée russe qui tente de créer une zone tampon à sa frontière. Ailleurs, dans le pays, la Russie continue de viser des cibles non militaires. Ces derniers jours, des civils ont été tués dans d'autres frappes, notamment à Kiev, la capitale. Et à chaque fois, Volodymyr Zelensky accuse la Russie de ne pas vouloir la paix. Il y a encore 2 jours, le président russe Poutine rencontrait l'envoyé spécial de Donald Trump à Saint-Pétersbourg. Une réunion de 4 heures sans aucun résultat à la sortie.
Une précision signée Julien Chavanne. La Maison-Blanche a réagi à la reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien en saluant, je cite, un pas en avant. Ces pourparlers d'hier à Oman en présence de l'émissaire de Donald Trump ont été, selon elle, très positives et constructives. De son côté, Téhéran précise que le dialogue reprendra samedi prochain, 19 avril. Hier, lors des échanges, c'est le ministre omanais des Affaires étrangères qui a servi de médiateur. L'hôpital Al-Ali, qui était le dernier hôpital en service depuis des mois dans le nord de Gaza, touché à son tour par des frappes israéliennes nocturnes, il est désormais hors de service, de nombreuses installations ayant été détruites. Les patients, parfois gravement blessés, avaient dû évacuer quelques minutes avant les frappes. Correspondance d'Abla Junaidi.
Les images tournées par Al Jazeera avant les frappes sont saisissantes. À la suite de l'avertissement de quitter la zone en pleine nuit émis par l'armée israélienne, les patients et proches des malades se sont déversés dans les rues avec leurs lits d'hôpital, les bouteilles d'oxygène parfois. Personnes amputées, brûlées, des blessés à haut risque. Selon le médecin américain Razan Al-Nahas, qui vient de passer 50 jours à Gaza, 3 patients au moins seraient morts lors de leur évacuation, dont une enfant sous oxygène. Pour l'instant, il n'y a pas de bilan humain de la frappe elle-même. La réception et le département des urgences de l'hôpital seraient détruits par le feu, endommagés aussi le laboratoire, la pharmacie et le stock d'oxygène pour les soins intensifs. Les médecins et soignants d'Al-Ahli avaient l'habitude de travailler dans les pires conditions, notamment depuis la frappe qui avait fait plusieurs centaines de morts au tout début de la guerre. Mais ce matin, le dernier hôpital fonctionnel du Nord est un amas de ruines. Certains patients ont été emmenés vers un hôpital plus petit, moins équipé, lui-même partiellement détruit, celui d'Al-Shifa. Al-Ahli est le 35e hôpital bombardé depuis octobre 2023 à Gaza. Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
Il est des anniversaires dont on aimerait se passer. Ce dimanche 13 avril marque les 50 ans du début de la guerre civile au Liban. C'était le 13 avril 1975 jusqu'en 1990. Les anciens chefs de l'UNIS se seront convertis en hommes politiques. Ils ont aussi voté une loi d'amnistie générale. C'est pour sensibiliser la jeunesse libanaise au risque d'endoctrinement et d'escalade de la violence qu'une poignée d'anciens combattants sillonnent à présent les écoles et les universités du pays. Au Gabon, on connaîtra les résultats complets de la présidentielle ce dimanche à 13h30, heure de Libreville, 12h30, temps universel. Le ministère gabonais de l'Intérieur se félicite d'une très forte mobilisation hier avec une participation de 87%. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. On y revient largement dans Afrique Midi à 12h30 TU, journal présenté par Pierre Boudias. Élection aussi en Équateur. Second tour d'élection présidentielle ce dimanche. Il met aux prises le président sortant Daniel Noboa et son opposante de gauche Luisa González. Le résultat s'annonce serré dans un pays endetté, gangrené par la corruption et la violence des gangs. Il connaît l'un des plus forts taux d'homicide du continent sud-américain. Les deux finalistes proposent des programmes bien différents, rappelle une spécialiste, Emmanuel Sinardet, responsable du Centre d'études équatoriennes.
Daniel Noboa ne se présente pas en tout cas comme un homme de droite. Il est soutenu par les secteurs entrepreneuriaux, par les agro-exportateurs. Il met l'accent sur une réactivation économique reposant sur un État plus efficace, ouvert au secteur privé et aux investissements étrangers. Une lutte contre le narcotrafic qui est celle de la main dure, la mano dura. Luisa González est particulièrement consciente de cette demande. Elle base plutôt sa solution par un retour de l'État dans des politiques sociales, notamment couper l'herbe sous le pied aux groupes narcotrafiquants dans la séduction qu'ils opèrent sur le terrain auprès des jeunes. La candidate Luisa González s'est efforcée tout au long de cette campagne de bien insister sur le fait qu'elle est progressiste de gauche au service de la défense de la souveraineté nationale face à des intérêts étrangers.
Emmanuel Sinardet, responsable du Centre d'études équatoriennes, joint au téléphone par Juliette Chénion. Avec au moins 226 morts, le bilan de l'effondrement d'une discothèque en début de semaine à Saint-Domingue s'est encore alourdi. Les autorités précisent que tous les corps ont été rendus à leurs proches. Nouvel épisode dans le feuilleton des incidents entre la France et l'Algérie. Alger a vivement riposté contre la détention en France d'un agent consulaire. Cet homme est accusé d'avoir participé à l'enlèvement fin mars sur le sol français d'un influenceur algérien, Amir Boukors, un opposant au régime de son pays. Dans cette affaire, trois hommes ont été mis en examen vendredi à Paris pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Ils ont été placés en détention. Le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé, je cite, ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable qui causera un grand dommage aux relations bilatérales. Enfin, cette réaction de la France, l'autorité judiciaire française agit en toute indépendance, se rappelle une source diplomatique. Le record Storgé vient d'être célébré un peu partout dans le monde. En France, c'était hier le Disquaire Day, le jour du disque. Objectif, soutenir les boutiques de vinyles indépendantes qui organisent tout le week-end des ventes spéciales et des événements. Avec quelles retombées économiques pour cette industrie fragile? Écoutez le reportage de Mathias Troud à Paris, dans le quartier de Montmartre. C'est l'une des places fortes du vinyle français.
Tickets distribués pour gérer la file d'attente sur le trottoir, magasin bondé.
Besoin de tickets?
C'est un week-end de pèlerinage pour les passionnés comme Heather, fatiguée mais contente de ses trouvailles.
On s'est levé à 4h30 à peu près pour prendre le premier métro pour venir ici. Je suis queen depuis des années, donc je voulais la sortie des demos, des premières chansons en fait de Queen et Freddie Mercury.
Une trouvaille possible grâce à Thomas Changeur. Il gère avec sa femme Balade Sonore, l'une des plus grandes boutiques de vinyle de la capitale. Pendant le Disquaire Day, il joue gros.
On a commandé plus de 1500 disques pour 350 références. Il a fallu convaincre la banque de laisser un peu de souplesse et de faire même un petit emprunt pour assurer un maximum de quantité. Et après, on croise les doigts tout le week-end pour que le public soit au rendez-vous. Mais la sélection est belle cette année, donc on n'est pas inquiet.
Sélection qui met ici en avant des artistes indépendants français. Une manière de se démarquer en ce week-end crucial pour une industrie fragile.
On peut faire un chiffre d'affaires qui correspond à un petit mois dans l'année. Comme celui de février par exemple, ça peut se faire sur 2-3 jours.
Et permettre aux disquaires de se diversifier, DJ set, showcase et expo rythment également le week-end.
Reportage à Paris dans le quartier de Montmartre de Mathias Troud. Enfin, victoire kényane chez les hommes à l'arrivée du marathon de Paris ce matin. Bernard Biwott a remporté son deuxième marathon en s'imposant en 2h, 5 minutes et 25 secondes, améliorant son record personnel. Chez les coureuses, l'éthiopienne Bedatou Hirpa a devancé au finish sa compatriote Dera Dida pour l'emporter en 2h, 20 minutes et 45 secondes. À 25 ans, elle remporte son deuxième marathon de l'année. Bientôt, midi 10. Ici à Paris. Bonne journée sur RFI. Elle continue avec Religion du Monde, l'émission de Véronique Guémard.